Interview.
2 jours.
Vous êtes à l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. De nouveau avec Corinne Morel-Darleux, bonjour.
Bonjour.
De retour de voyage en plus. Hein.
Oui, tout à fait.
Donc un peu fatiguée mais présente pour cette deuxième session, à savoir proposer aux auditrices, aux auditeurs un retour sur les sessions plénières de la région Rhône-Alpes dont vous êtes une élue. Vous avez évidemment, on le rappelle quand même, une orientation de par votre appartenance au parti de gauche. Donc voilà, comme ça les gens sont prévenus et nous avons décidé ensemble aussi quelques points prioritaires à aborder aujourd'hui. La prochaine en tout cas sera mi-avril, notamment sur le vote du budget et donc on va attaquer comme ça. Il y a eu un débat d'orientation budgétaire. Houleux.
Oui, un petit peu houleux, effectivement, parce que la dernière session était consacrée à ce débat d'orientation budgétaire. Et de fait, on n'a pas eu beaucoup de débats et on n'a pas non plus eu beaucoup d'orientations, contrairement à ce qui est prévu, notamment par la nouvelle loi NOTRe qui organise le fonctionnement des régions, qui précise bien que ce débat d'orientation budgétaire est censé donner des lignes directrices, des perspectives pour la suite. Et faute de lignes directrices, on a surtout eu, de la part du président de région, Laurent Wauquiez, plutôt un bilan un peu assassin du dernier mandat de Jean-Jacques Kerran, mais pas beaucoup finalement de perspective sur ce qu'il compte faire lui.
Pardon, quand on parle de ses orientations, c'est justement pour parler de Jean-Jacques Kerran, ça pourrait ressembler à ce qu'avaient été les grands projets Rhône-Alpes, ce genre de choses-là ?
Oui, tout à fait. Ces orientations budgétaires, c'est normalement effectivement les grandes lignes de la politique régionale, donc quels vont être les grands projets, comment le budget va être équilibré. Parce que qui dit grand projet dit dépenses publiques, donc le budget étant contraint et non extensible, quand Laurent Wauquiez annonce par exemple à la presse, hein, pas aux élus régionaux mais à la presse, ce qui est déjà d'une désinvolture démocratique un peu surprenante, que la région va investir 100 millions d'euros dans l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, ces 100 millions d'euros... il va falloir les trouver quelque part pour équilibrer le budget. De la même manière, quand M. Wauquiez annonce 20 millions d'euros pour équiper les lycées de tourniquets, de sécurité et de caméras de vidéosurveillance, ces 20 millions, il va bien falloir les prendre ailleurs. Et donc, on espérait avoir, durant ce débat d'orientation budgétaire, des réponses à ces questions. Savoir aussi, puisqu'il y a 300 millions d'euros d'économies qui ont été annoncés sur cette mandature, bien tout simplement savoir où cet argent va être pris. Malheureusement, on n'a pas eu la réponse pendant la session. On a la réponse par la bande, c'est-à-dire par des informations, des alertes, des inquiétudes qui nous remonte du terrain d'un certain nombre d'acteurs qui ont reçu visiblement des consignes de la part des services de la région de réduire leur budget et leur demande d'aide parfois jusqu'à 50%. Ces acteurs, ce sont les associations, les acteurs culturels, les acteurs du milieu paysan, de l'agriculture biologique et des circuits courts. Et ils sont aujourd'hui extrêmement inquiets pour leurs activités, pour les emplois, pour la pérennité du travail extrêmement important qu'ils font localement sur le terrain. Et donc, c'est avec eux que nous allons travailler dans la perspective de ce budget qui sera donc soumis au vote des élus et de l'Assemblée plénière les 14 et 15 avril.
Alors, c'est quand même étonnant que des services régionaux puissent demander à des associations de prévoir qu'il faut qu'elles réduisent leur budget ou de ne pas faire les demandes à la hauteur de ce qu'elles faisaient d'habitude. Mais enfin, normalement, on reçoit et puis après, on coupe, mais éventuellement, mais on ne le fait pas à l'avance.
D'une certaine manière, on peut se dire que c'est plutôt sympa de leur part de les prévenir. Ça permet d'anticiper un tout petit peu. Après, ce qui est surprenant surtout, c'est que ces instructions indiquent bien qu'il y a aujourd'hui aujourd'hui des orientations qui sont prises. Et ce qui est surprenant, c'est que nous, en tant que représentants des citoyens et des électeurs, on n'ait pas ces informations-là directement. Mais c'est un fonctionnement qui devient habituel, malheureusement, à la région, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend par la presse. Alors, il faut maintenant, quand on est élu régional, s'abonner au Dauphiné Libéré, au Progrès, à la Montagne, pour savoir ce qui va arriver au vote en session, ce qui est tout à fait, je ne sais même pas quel mot employer, plus qu'agaçant à force, et puis qui va de pair avec un fonctionnement interne qui est un peu chaotique. On a eu là, juste avant la dernière session, les réunions des commissions thématiques, dont certaines commissions ont été annulées quelques jours avant, faute de rapport, faute de dossier à examiner. Là, on vient d'apprendre que les commissions qui devaient se tenir cette semaine étaient reportées d'une semaine. Donc, voilà, on ne peut même plus planifier notre agenda. Il y a des élus qui ont conservé un travail à côté de leur mandat, par exemple, qui doivent se réorganiser vis-à-vis de leur employeur sur des dates qui, normalement, sont fixées à l'avance, justement, pour assurer la présence des élus indispensables dans ces commissions. Donc, tout ça témoigne soit d'une mauvaise organisation de la part du nouvel exécutif, soit d'une désinvolture. Dans les deux cas, c'est un peu inquiétant.
Cette question du désir peut-être de créer une situation un peu chaotique où on n'a pas vraiment le temps d'administrer peut être réelle. Ça pourrait être une tactique sans là justement c'est pas une question de conflit de parti hein, je voudrais pas vous
non pas du tout, ça pourrait être une tactique. Je pense que ça l'est sur cette tactique qui devient une habitude de monsieur Wauquiez d'annoncer les choses à la presse avant de les annoncer en interne à la région. Je pense que là on est plus sur des effets de manche et une stratégie de communication qui d'ailleurs est à mon avis plus liée à des enjeux nationaux qu'à des enjeux régionaux, avec la perspective des primaires chez les Républicains, des présidentielles qui arrivent et de la carrière personnelle de Laurent Wauquiez. En revanche, en ce qui concerne l'organisation interne, je ne pense pas que ce soit délibéré. Je pense que c'est plus l'effet conjugué. Bon, d'abord, il faut le reconnaître, hein, de choses qui sont assez légitimes. C'est-à-dire qu'on est sur un changement de majorité, donc qui bouleverse un petit peu l'organisation interne. On est aussi sur une coïncidence de calendrier avec la fusion des deux régions, Auvergne et Rhône-Alpes. Donc tout ça n'est pas simple et n'aurait été simple pour personne, il faut le reconnaître. Et puis après, c'est aggravé par cette volonté de Laurent Wauquiez d'aller très vite. C'est un président pressé, impatient, qui avait annoncé qu'il changerait beaucoup de choses et que ce serait visible en 100 jours. Le décompte des 100 jours commence à arriver et il se heurte au mur de la réalité. C'est que, voilà, il n'y a pas de baguette magique ni de raccourci en politique, même quand on est ultra-libéral, et que pour changer les choses, il faut un petit peu de temps, même quand on le fait sans concertation, comme c'est son cas.
Pour revenir sur ce débat d'orientation budgétaire, lorsqu'il n'y a pas débat, que reste-t-il aux élus de tous bords, finalement ?
Le débat a lieu ailleurs, tout
voilà,
simplement.
C'est ça.
C'est-à-dire
ce sera
que,
dans le cadre des commissions, peut-être.
Voilà, c'est dans le cadre des commissions, c'est dans le cadre des rencontres qu'on peut avoir aussi en dehors de l'institution. On a, nous, par exemple, une rencontre qui arrive, que nous avons initiée au sein du groupe du Rassemblement avec les acteurs de ces réseaux agricoles, paysans, qu'ils soient d'orientation syndicale, juridique, circuit court, agriculture paysanne et biologique. On a pris l'initiative, du coup, de les réunir et on va avoir une réunion de travail avec eux pour discuter et pour débattre, justement, du futur budget de la région. On a rencontré aussi les cheminots qui sont inquiets sur la négociation de la prochaine convention TER qui risque de faire les frais de ces recherches d'économie budgétaire parce qu'à un moment donné, il faut trouver l'argent quelque part et les marges de manœuvre ne sont pas si grandes. Donc on craint beaucoup que ça se répercute sur l'activité des trains express régionaux et qu'il y ait du coup des baisses de services, des suppression de lignes ou de diminution de trafic, par exemple. Donc on discute aussi avec eux. Donc voilà, le débat, il s'organise ailleurs que pendant les sessions plénières, sachant que pendant les sessions plénières, on a entre 5 et 10 minutes par groupe pour réagir à ce qui est présenté, ce qui est très court, et qu'en plus, à la dernière plénière, Laurent Wauquiez a carrément coupé les micros lorsque les 5 minutes ou les 10 minutes étaient dépassées de quelques secondes, ne permettant même pas aux responsables qui s'exprimaient d'aller jusqu'au bout de leur pensée, ce qui est là aussi pour le moins cavalier.
Parlons un petit peu justement, c'est tout à fait facile de glisser vers cela, ces petits incidents, ces modifications de date, ces soucis de gestion qu'on voit là et éventuellement le fait de se faire censurer. Il y a eu des exemples très concrets, il y a évidemment un groupe FN aussi qui braille beaucoup, j'ai envie de le dire comme ça parce que je n'ai peu de respect pour ces gens, mais enfin bref, est-ce que ça c'est cavalier ou est-ce que c'est comment dire, autoritaire, enfin nécessaire ?
Il y a une part de cadre absolument nécessaire, ça c'est évident, et d'ailleurs effectivement on a eu un certain nombre d'incidents à l'occasion de la dernière session, mais qui sont malheureusement assez coutumiers, notamment de l'attitude des élus du Front National. Là on a eu des échanges totalement lunaires avec des élus du Front National traitant un élu communiste de collabo. Bon là pour le coup il y a quand même eu un rappel à l'ordre, parce qu'il y a des choses effectivement graves dans les propos qui sont parfois tenus par ces élus d'extrême droite. Après, sur la tenue générale des débats, bon, c'est des débats qui sont publics, hein, les assemblées plénières.
Filmées,
retransmises effectivement sur le site de la région, et naturellement qu'il faut un cadre si on veut que ce soit efficace et que ce soit pas la foire d'empoigne permanente ou des longs discours voilà, qui servent de tribune politicienne aux uns et aux autres. Là, la difficulté qu'on a, c'est que les temps de parole des groupes d'abord sont réduits à la discrétion du président de région. Donc il y a un premier temps officiel qui est fixé en conférence des présidents des différents groupes, donc sur lequel il y a un accord. Mais par contre, s'il y a des prises de parole après, le président Wauquiez peut très bien décider de ne pas redonner la parole à un groupe. Ce qu'il fait, effectivement, sous couvert d'efficacité et de ne pas perdre son temps en palabres inutiles. Là où ça pose problème, c'est que lui-même, derrière, se permet des digressions qui durent parfois jusqu'à 45 minutes de monologue du président sur des sujets qui parfois ne sont pas du ressort de la région, mais des sujets nationaux sur le plan chômage du gouvernement ou autres dispositions. Et là, ça pose davantage de problèmes, parce que la règle doit être la même pour tout le monde, s'appliquer à tous. Et certes, il est président de région, mais pour le coup, couper le micro des groupes d'opposition lorsqu'ils débordent de quelques secondes pour ensuite se permettre de longues digressions ne va pas non plus dans le sens de l'efficacité qu'il prône. Donc voilà, le problème majeur, c'est ce deux poids, deux mesures qui donne un temps démesuré en réalité à l'expression de Laurent Wauquiez et par son biais des Républicains au détriment des autres groupes.
On en revient en fait à ce qui était dit tout à l'heure, c'est un peu un effet de communication, soit personnel, soit carriériste, soit en tout cas au profit de son parti. Ceci dit, sans que ce soit la foire d'empoigne, là, aucun moyen pour personne dans l'Assemblée de le faire taire. Enfin, je veux dire, on pourrait pas se mettre à crier. Comme on le voit des fois là, c'est quoi, c'est le mercredi dans l'Assemblée nationale, quoi.
Alors c'est arrivé lors de la dernière session, notamment après que Laurent Wauquiez ait effectivement coupé le micro, notamment de Jean-François Debat, qui est président du groupe socialiste, et puis qu'il ne l'ait pas fait, en revanche, pour le groupe du Front National. Donc là, oui, ça a quand même un peu râlé sur les bancs de l'opposition, sur ce deux poids, deux mesures favorables à l'extrême droite. Bon, en règle générale, on évite quand même de se donner trop en spectacle et de contribuer à dégrader encore davantage l'image des élus de la République dans cette institution.
Passons à un point positif, Corinne Morel-Darleux. Vous avez proposé, et avec votre groupe, un vœu contre le gaz de schiste. et c'est passé.
Oui, c'est un point positif sur lequel je souhaite revenir, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et il faut aussi montrer que parfois on arrive à obtenir des victoires. La dernière fois que je suis venue ici, on avait conclu l'émission sur un appel à aller manifester à Barjac, dans le Gard, contre l'extraction de ces gaz de schiste. On était 15 000 à Barjac, c'était un très beau rassemblement, très combatif, très joyeux et très fédérateur, avec des gens de plein d'horizons différents et des élus de différents horizons politiques aussi. Et il y avait notamment à Barjac quelques élus de droite qui faisaient suite probablement à un déplacement de Laurent Wauquiez en Ardèche le 12 février, où il avait déclaré publiquement qu'il était opposé au gaz de schiste. Donc on s'est dit qu'on allait saisir la balle au bon et le prendre au mot, en déposant ce vœu pour demander l'abrogation du permis de Montélimar, le soutien à tous les acteurs qui localement s'organisent contre ces extractions de gaz de schiste, et puis en allant aussi un peu plus loin, parce qu'il ne s'agit pas juste d'abroger les permis chez nous, le slogan du mouvement c'est gaz de schiste ni ici ni ailleurs, et donc en demandant, troisième point de ce vœu, une révision de la loi dite Jacob qui interdit la fracturation hydraulique, mais en l'étendant y compris à tout ce qui est recherche et exploration, pour faire en sorte que voilà, on tourne définitivement la page de ces gaz de schiste en France. Donc on a proposé ce vœu aux autres groupes d'opposition, on l'a porté ensemble, je suis intervenue pour le présenter pendant la session, et puis justement j'ai interpellé directement Laurent Wauquiez sur ses prises de position publiques, en demandant du coup au groupe des Républicains de confirmer cette position, en rappelant aussi les déclarations suite à Barjac du chef de Total, M. Pouyanné, qui a déclaré dans la presse que, vu le prix du baril de pétrole et vu la manière dont il se sentait accueilli sur le territoire, il avait autre chose à faire que d'aller chercher des gaz de schiste sur les territoires de Drôme et d'Ardèche notamment.
Il s'est découragé.
Voilà, donc en reprenant tous ces éléments, eh bien, nous avons réussi effectivement à faire passer ce vœu qui du coup a été voté majoritairement, donc à gauche comme à droite.
C'est-à-dire majoritairement un truc un peu écrasant.
Ah oui, tout à fait écrasant. Les seuls qui se sont dissociés partiellement de ce vœu étant les élus du Front National, qui très curieusement ont demandé un vote par division, c'est-à-dire qu'ils n'ont voté qu'un point sur les trois. Ils ont voté en faveur de l'abrogation du permis de Montélimar. Par contre, ils ont voté contre le soutien aux acteurs qui se mobilisent contre les gaz de schiste, peut-être par crainte de débordement citoyen sur ces manifestations, et puis contre la révision aussi du code minier et de la loi.
Ne nous fermons pas la porte, quoi.
Donc le ni ici a fonctionné, le ni ailleurs n'a pas été convaincant du côté de l'extrême droite.
Ce vœu concrètement, en dehors de voilà, d'avoir... Comme on le dit, on est contre les OGM, on est contre le gaz de schiste. Est-ce qu'au niveau régional, ça va très concrètement impacter sur non seulement effectivement l'interdiction de venir rechercher, mais qu'il y ait, je ne sais pas moi, protection de ces espaces-là, remise en état de ce qui a déjà été détruit
Alors les vœux qui sont votés à la région n'ont pas de valeur contraignante juridique ou légale. C'est des vœux qui sont généralement adressés au gouvernement sur des thématiques régionales, mais adressés au gouvernement parce que tout simplement la région n'a pas le pouvoir législatif.
Oui.
C'est le gouvernement qui l'a. Donc en fait, ce vœu, il va être envoyé au gouvernement. Il s'adresse au gouvernement pour lui demander de prendre la décision, comme il peut le faire, hein, d'abroger les différents permis. Il y a Montélimar et puis il y en a d'autres dans l'Ain, notamment sur la région, et de faire un projet de loi dans le cadre de la révision du code minier qui aille dans le sens de l'interdiction totale.
Donc ben ça n'a pas de quoi,
c'est un vœu, une proposition. Okay. Après, très honnêtement, le fait, notamment vis-à-vis de Total, qui a commencé à reculer déjà, le fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes dans son ensemble, en tant que collectivité territoriale, qui est quand même la deuxième région de France, prenne position de manière ultra majoritaire contre toute extraction des gaz de schiste sur son territoire, a évidemment un poids et vient renforcer la mobilisation citoyenne des 15 000 personnes qui étaient à Barjac et l'action de tous les collectifs sur le territoire qui vont dans ce sens. Donc ça n'a pas de valeur contraignante, mais c'est un soutien de poids qui peut à un moment donné faire peser la balance effectivement dans le sens de l'abrogation.
Et ben on peut l'espérer en tout cas, parce que franchement moi j'ai vu des secteurs où il y a eu des débuts d'extraction, c'est pas beau du tout.
C'est aussi, je me permets juste de rajouter un point plus prospectif,
oui.
Mais c'est aussi une manière de, comment dire, coucher noir sur blanc la position de l'ensemble des élus de droite sur cette question-là. Parce que dans le cas d'un changement de majorité présidentielle en 2017 éventuel, s'il devait y avoir un changement de position sur l'extraction des gaz de schiste au niveau national, parce que la droite peut aussi très bien décider d'abroger non pas les permis de recherche, mais la loi d'interdiction de la fracturation hydraulique, par exemple.
Hein. Oui, oui.
Et on sait qu'il y en a beaucoup chez les Républicains qui sont favorables à ça. Luc Chatel, qui est président du Conseil national des Républicains, a dit le mois dernier qu'il voulait que son parti devienne le parti des OGM et des gaz de schiste. Donc, nous aurons là un document permettant de rappeler l'ensemble des élus nominativement qui ont voté contre ces extractions de gaz de schiste et les interpeller s'ils devaient changer d'avis dans les mois ou les années qui viennent.
Comme on dit, cochon qui s'en dédie.
Exactement.
Passons à vos petits voyages en Europe et hors d'Europe d'ailleurs, Corinne Morel-Darleux. Un premier d'ailleurs en Italie, dans le Val de Suse, sur la question du Notav, ce très fameuse ligne Lyon-Turin en TGV très rapide, dont on sait d'ailleurs que quasi toute la partie française est faite. C'est en Italie que ça se bat encore beaucoup.
Oui, alors effectivement, parce qu'il y a la partie institutionnelle du travail d'élus et puis il y a la partie hors les murs, hein, sur le terrain. Ici, on a parlé de Barjac, mais aussi en dehors de nos frontières, puisqu'on se passe évidemment dans une approche de solidarité internationaliste.
Et puis en même temps, le Lyon-Turin, il vient de chez nous, de Rhône-Alpes.
Exactement, le Lyon-Turin fait partie de ces grands projets inutiles et imposés contre lesquels on se bat depuis plusieurs années. C'est une opposition à ce projet qu'on a porté aussi très fortement pendant la campagne des élections régionales, en mettant en avant pas seulement notre opposition, mais aussi les alternatives qu'on propose, qui existent aujourd'hui. Il y a une ligne qui existe, il y a une plateforme multimodale, c'est-à-dire un lieu à Ambérieu dans l'Ain, qui permettrait de passer les camions sur les trains à destination de Turin, et donc de faire du transport de marchandises par le rail, hein, ce qui, en termes de pollution, de santé, d'émissions de gaz à effet de serre, aurait évidemment un impact positif immédiat et beaucoup moins coûteux, puisque là, pour le coup, les infrastructures existent et il y a quelques aménagements à réaliser, mais beaucoup moins que le fait de percer un deuxième tunnel sous les Alpes, comme vous l'imaginez. Donc tout ça, évidemment, tout ça fait partie évidemment du travail qu'on doit continuer à mener en tant qu'élu, ne serait-ce que parce que ça fait partie des engagements qu'on a pris devant les électeurs. Et donc nous avons été invités effectivement par les opposants côté italien, qui eux doivent faire face, en plus de tout ce qu'on dénonce côté français, à l'implication de la mafia italienne dans les chantiers qui sont liés à ce percement du tunnel sous les Alpes. Et donc, ils nous ont invités, en tant qu'élus, à se joindre à eux sur une réunion de travail, d'état des lieux, d'argumentaire et de préparation d'un sommet franco-italien qui devait avoir lieu quelques jours après à Venise, entre François Hollande et Matteo Renzi, donc son homologue côté italien. Donc je m'y suis rendue avec les collectifs, des représentants des collectifs français et Daniel Ibanez qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. On y était le 5 mars et ça a permis de décider d'actions communes, de mieux se connaître et de témoigner aussi à la télévision italienne, parce que j'ai été interviewée par la RAI, du fait que surtout les élus français n'étaient pas favorables au Lyon-Turin, comme ça se raconte beaucoup côté italien. Et puis côté français, bah, ça me permet de dire aussi que les mouvements notaves, contrairement à ce qui est dit en France, c'est pas des bandes d'écervelés gauchistes ou de Black Bloc. Il y a aussi beaucoup d'élus de la vallée de Suse qui s'y opposent, et avec des arguments tout à fait factuels et dignes d'être examinés. Donc on a beaucoup échangé sur tout ça, et puis on est allé vers des propositions concrètes, parce que les communiqués de soutien, ils en sont un peu lassés. Maintenant, oui. Ce qu'ils veulent, c'est des propositions d'action concrètes. Et donc je les ai invités au nom du groupe de rassemblement à venir à la région. Donc je me suis engagée à ce qu'on organise une venue d'un certain nombre de ses représentants et des élus côté italien à venir au sein même de l'institution à la région pour faire une réunion d'information à destination des élus régionaux ici pour qu'ils entendent les arguments et que la prochaine fois qu'il y ait un vote à la région sur le Lyon-Turin, chacun dispose de l'ensemble des arguments pour voter en son âme et conscience sur ce projet.
Avec peut-être des vœux à prendre aussi là, encore une fois, ou quelle est l'implication directe de la région
Eh bien la région finance, c'est-à-dire que la région, durant le mandat précédent, alors les travaux n'ont pas vraiment débuté encore en tant que tel parce que tous les fonds n'ont pas été réunis, notamment côté européen. Mais il y a déjà de l'argent public régional qui est allé dans ce projet par le biais d'études, de chantiers et de projets, par le biais aussi d'un soutien financier à des officines de lobbying pro-Lyon-Turin. Avec d'ailleurs des conflits d'intérêts parfois un petit peu problématiques. Donc il y a de l'argent public déjà qui va sur le projet, même si les travaux en tant que tels de percement n'ont pas totalement débuté. Enfin, ils ont un peu commencé sur du déblai, mais le gros du chantier n'est pas encore lancé. La question va se poser, risque de se poser, durant ce mandat et celui d'après, sur le financement du chantier en tant que tel, dès que les fonds européens auront été réunis. Et à ce moment-là, eh bien, nous espérons avoir fait un travail suffisamment important d'explication, d'argumentaire, notamment sur l'alternative existante sur cette ligne qui a déjà été mise aux normes, pour qu'on n'engage pas des sommes astronomiques sur une liaison qui se ferait au mieux en 2050, alors que la question du transport de marchandises sur le rail et des pollutions avec des impacts importants en termes de santé publique, notamment dans les vallées des Alpes, se pose maintenant, pas en 2050.
Faites un petit tour dans la vallée de Chamonix, histoire de voir comment ça se passe. Cette problématique aussi du Lyon-Turin, évidemment, si la France la vote massivement et débloque ses crédits, en Italie, ça va forcément accélérer les choses. Ces réseaux mafieux commencent à être un peu connus. On sait qui va prendre les chantiers et pourquoi ça se fait encore, des réseaux mafieux qui prennent comme ça, captent l'argent aussi facilement en Italie.
La difficulté, c'est que ce chantier, il se fait sous le biais de partenariats publics-privés, c'est-à-dire que concrètement, la réalisation est confiée à des entreprises du privé, du BTP, etc., avec des phénomènes qu'on voit à l'œuvre à chaque fois qu'il y a des chantiers de ce type-là, de recours à des sous-traitants, une partie de travailleurs détachés. Quand vous allez sur le chantier, moi j'ai eu des témoignages comme quoi les consignes de sécurité sont affichées aujourd'hui en roumain, et en polonais, ce qui indique bien la manière dont les sous-traitants et les conditions de travail, une fois de plus, se font malheureusement sur ces chantiers. Et il se trouve que côté italien, un certain nombre de ces entreprises sont effectivement des entreprises soupçonnées d'être liées à la mafia italienne. C'est aussi une des raisons de cette opposition côté italien qui est plus forte que côté français, parce qu'elle se surajoute ces difficultés de criminalité organisée et de détournement de fonds, tout simplement.
Bon, on a quand même Vinci chez nous. Il y a des problèmes de détournement de fonds depuis des années avec leurs autoroutes, hein.
Bah, on a Vinci, on a Bouygues, on a Eiffage, ouais. On peut en citer effectivement un certain nombre, ce qui pose aussi la question de cette oligarchie qui détient à la fois les grandes entreprises de bâtiments et de travaux publics, les grands médias, puisque ce sont les mêmes familles et les mêmes actionnaires qui possèdent les médias, d'où l'omerta qu'il y a aussi sur tous ces grands projets inutiles et imposés, sur lesquels on arrive finalement à faire émerger des arguments et de l'information uniquement par la mobilisation citoyenne.
Et puis quand même un peu d'écologie, ces zones-là n'ont pas besoin d'être plus dévastées qu'elles ne le sont déjà. On va passer à un autre point, ce voyage au Kurdistan, une délégation du parti de gauche dont vous faisiez partie. Et puis j'ai lu aussi des journalistes qui n'avaient même pas eu le droit de rentrer sur le territoire. Vous avez fait un truc de fou alors.
Oui, la situation. Alors donc moi j'étais au Kurdistan turc. Qui en réalité n'existe pas. Hein. Oui. Quand on parle de Kurdistan turc... Alors
on n'a pas le droit normalement. Hein.
Oui, en fait, voilà, c'est simplement que le peuple kurde est très présent dans cette partie de la Turquie. Moi, j'étais à Diyarbakir. Donc, c'est la partie est de la Turquie, pas très loin de la frontière avec la Syrie. Ouais. Et les Kurdes, aujourd'hui, sont massivement présents donc, dans cette partie est de la Turquie, mais également en Irak et en Iran et en Syrie. Et donc, ils sont l'objet d'une répression importante de la part du gouvernement turc qui s'est intensifiée encore ces derniers mois sous la conduite de M. Erdogan en Turquie.
Il l'avait été beaucoup de l'Irak aussi. Hein. J'ai jamais été vraiment accepté d'aucun des pays dans lesquels il...
Oui, tout à fait, parce que tous ces pays ont très peur de mouvements séparatistes qui viseraient à recréer une entité autonome du Kurdistan et qui les amputeraient non seulement d'une partie de leur territoire, mais surtout de frontières qui sont aujourd'hui des zones de trafic en tout genre et qui permettent, par exemple, à Daesh de faire passer une partie du pétrole qui lui permet de financer ses activités terroristes vers d'autres pays. Donc c'est des zones qui, en termes géostratégiques, sont absolument cruciales et d'autant plus avec les conflits en cours, notamment en Syrie, mais aussi en Irak. Et il se trouve que les Kurdes présents sur ces zones sont en réalité en première ligne contre Daesh et contre l'État islamique, puisque ce sont eux qui sont sur la ligne de front, qu'ils ont monté des unités de combat dans l'ensemble de ces pays qui sont celles qui aujourd'hui remportent les plus grandes victoires pour faire reculer Daesh, l'État islamique, et récupérer un certain nombre de villes et venir surtout en aide aux populations martyrs de ces zones de conflit.
On pourrait imaginer que s'ils étaient groupés, il y aurait un vrai pays qui blocus, une sorte de muraille là presque.
Ça ne fait pas partie aujourd'hui de leurs revendications.
D'accord.
Les revendications aujourd'hui sont avant tout celles d'abord de pouvoir vivre en sécurité dans leur propre pays, là en l'occurrence la Turquie. Il faut savoir qu'à Diyarbakir, dans les quartiers de Sour, dans la vieille ville, c'est des quartiers qui sont en état de siège et de guerre. Nous, on est allés à Diyarbakir dans ces quartiers, ça faisait très peu de temps que les bombardements en tant que tels avaient cessé. C'est des endroits sur lesquels il faut encore passer des checkpoints tous les 5 mètres pour pouvoir accéder à une partie de la ville, sachant qu'une partie est encore bloquée par les forces armées de la police turque. Et c'est des quartiers qui ont été littéralement martyrisés, bombardés, avec des populations civiles, des femmes et des enfants qui sont morts dans l'effondrement de leur maison sans pouvoir quitter leur quartier et sans vouloir le quitter, puisque ils ont évidemment toute légitimité à continuer à vivre là où ils sont. Donc on a des affrontements très importants, des populations qui sont réprimées et qui ne peuvent pas vivre librement leur culture, notamment pendant des années, le simple fait de parler kurde pouvait vous emmener en prison. L'organisation des Kurdes politiques a permis d'obtenir un certain nombre de victoires. C'est notamment le mouvement HDP qui a obtenu d'ailleurs l'année dernière plus de 10% aux élections législatives, ce qui lui a permis de rentrer au Parlement. Ce qui est évidemment une très belle victoire en matière de démocratie et d'égalité des droits du peuple kurde, mais qui du coup inquiète aussi beaucoup le gouvernement Erdogan et qui voilà, rend les choses, comme vous le comprenez, très compliquées sur place. Il se trouve que nous, on était invités justement à l'initiative du HDP, mais aussi de différents mouvements de femmes libres, puisque le HDP et le mouvement kurde ont cet énorme intérêt de se déclarer à la fois anticapitaliste, mais aussi laïque, féministe et écologiste, hein, ce qui évidemment crée beaucoup de proximité et beaucoup d'intérêt, surtout dans cette zone, quand vous avez des mouvements laïques et féministes avec des femmes en responsabilité et des unités de combat féminines. Vous imaginez à quel point cela est précieux
et rare.
Ce sont des gens qui organisent des séminaires de lutte contre le patriarcat avec des hommes qui sont volontaires pour participer à ces séminaires. Enfin voilà, c'est un univers assez fascinant et extrêmement intéressant à regarder. Donc voilà, on était invités par tous ces gens-là sur un événement bien particulier, très important pour la culture kurde, qui est ce qu'on appelle le Nevroz, ou Nowroz en perse. C'est le nouvel an kurde, c'est l'équinoxe de printemps, c'est une fête séculaire qui est fêtée dans beaucoup de pays et qui pendant longtemps a été interdite en Turquie. Alors aujourd'hui, il y a des tentatives de récupération de la part du gouvernement. Toujours est-il que c'est devenu un symbole de résistance du peuple kurde et de sa liberté à célébrer ce nouvel an kurde. Et donc, nous avons été invités à Diyarbakir, à le fêter avec les camarades kurdes et l'ensemble de la population de Diyarbakir. C'est des fêtes qui regroupent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes. Et cette année, au vu de la situation extrêmement conflictuelle sur place, ce rassemblement de Diyarbakir a été le seul autorisé par les autorités. Ça a donc été un moment très important, très, très beau moment, extrêmement festif, extrêmement coloré, populaire, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de familles réunies. On était très heureux d'y être, en soutien, de répondre à cette invitation et puis de profiter évidemment de ce voyage aussi pour, comme je le disais tout à l'heure, aller constater nous-mêmes sur place à Sour, dans ces quartiers de Diyarbakir, l'état de la ville, de la population. On a réussi à passer un certain nombre de barrages policiers et de s'entretenir directement avec des habitants de Sour. Et c'est évidemment extrêmement important de se rendre compte sur place des choses pour pouvoir revenir témoigner en France de ce qui se passe avec un autre regard que celui qu'on peut lire dans les journaux. Ça permet d'avoir des sources d'informations directes et de faire vivre de manière très concrète cette solidarité internationale dont certains se gargarisent sans la vivre.
Au-delà de cet entretien maintenant ici à Erdioa, où votre témoignage va-t-il passer ? Ces journalistes qui sont venus avec vous ont-ils emporté des images ? Ont-ils emporté aussi du texte, du son qui va donc essayer d'être diffusé ?
Oui, il y a de plus en plus aujourd'hui de choses qui sortent et qui sont publiées sur ces différents mouvements et sur ce qui se passe à Diyarbakir et ailleurs, notamment au Rojava, c'est-à-dire côté syrien, où là pour le coup il y a un territoire autonome kurde qui s'est mis en place avec une expérience d'auto-administration extrêmement intéressant sur le Rojava. Donc il y a de plus en plus de choses qui commencent à sortir. Jusqu'ici c'était un peu confidentiel, on trouvait des articles sur des sites alternatifs gauche anarcho-libertaire sur la voie du Jaguar et autres. Aujourd'hui, il y a des journalistes mainstream, entre guillemets, qui en parlent de plus en plus. Il y a des articles de presse, il y avait une journaliste du Monde Diplo qui était présente, mais il y avait aussi un journaliste des Jours. C'est des anciens de Libération qui viennent de monter un site en ligne. Il y a des choses maintenant qui sortent, et puis le fait qu'on soit finalement en zone de guerre, d'une certaine manière, permet qu'il y ait une relation des faits dans les médias dominants. Pour autant, il manque encore de témoignages, notamment parce que tout simplement certaines de ces zones sont aujourd'hui inaccessibles. Parce qu'on est en zone de guerre, parce qu'on est sur la zone de front de lutte contre Daesh, mais aussi contre certains groupes d'Al-Qaïda, qu'il ne faut pas oublier à l'occasion de la lutte contre l'État islamiste. Ils sont toujours là. Et ils sont toujours là et actifs en Syrie, même si maintenant on les appelle rebelles syriens. En réalité, on retrouve des branches d'Al-Qaïda du côté des rebelles syriens. Donc voilà, il y a un travail à faire, qu'on a commencé à faire. Moi, j'ai écrit un récit de ce voyage sur mon blog, qui a été diffusé beaucoup dans les réseaux kurdes et qui, j'espère, le sera en dehors de ces réseaux kurdes. J'en ai fait un rapport également à l'occasion du Conseil national du Parti de gauche ce week-end, ce qui a permis d'informer l'ensemble de nos délégués qui venaient de partout de France de la situation et de commencer à sensibiliser encore davantage sur cette question. Je suis en contact aussi avec des représentants d'une association d'amitié entre la France et le Kurdistan qui sont à Lyon pour organiser un certain nombre de réunions publiques sur la région pour là aussi contribuer à faire connaître la situation. Et puis j'ai quelques projets de suite et de nouveaux déplacements, notamment côté syrien et irakien, pour continuer à approfondir cette question et à nouer des liens qui soient des liens à la fois de soutien aux combattants kurdes dans leur lutte contre les djihadistes, qui est quand même aujourd'hui un sujet sur lequel on ne peut plus continuer à faire comme si ça ne nous concernait pas, puisque de fait nous sommes frappés ici et des recrutements s'effectuent ici. Et puis d'autre part aussi pour approfondir la bataille culturelle, qui est très importante pour les Kurdes, dans le sens où tout ce travail sur la laïcité, sur le féminisme, sur l'égalité des droits, sur l'écologie également, est un travail qu'ils considèrent comme au moins aussi important que le combat armé et l'autodéfense sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, cette bataille idéologique, elle est menée par Daesh et par les djihadistes. Elle doit être aussi menée par les forces progressistes. Et donc, il y a un vrai souhait de travail, notamment avec la France, sur les questions de stratégie révolutionnaire, sur la Commune de Paris, sur une certaine conception des Lumières et du progrès social et humain. Et avec les travaux qui ont été réalisés ici sur l'écosocialisme, il semblerait qu'on ait beaucoup de passerelles sur le projet politique, puisque eux se sont beaucoup inspirés aussi du municipalisme libertaire et des théories notamment de Murray Bookchin, qui sont très proches de ce qu'on fait sur l'écosocialisme. Donc voilà, il y a plein de projets qui ne sont pas seulement des projets durs et guerriers, même si cette étape-là est malheureusement aujourd'hui nécessaire, mais aussi des projets d'élaboration portés vers l'avenir et vers un monde meilleur.
Et moi-même, je suis le premier à découvrir qu'effectivement, on n'a pas besoin d'aller si près en Espagne, mais que ça se passe aussi au Kurdistan. Ben, bravo. Merci pour ce témoignage. Corinne Morel-Darleux, on arrive au bout de notre entretien sur cette session plénière et toutes vos autres activités régionales ou pas. Rappelez peut-être quand même votre blog, oui, Les Petits Poissons Rouges, si on veut lire ce récit. Autre chose, peut-être qu'on aurait oublié de dire, que ce serait important là de...
Non, on est obligé de faire un choix et une sélection parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais je crois que voilà, c'était les points les plus essentiels et les plus représentatifs et symptomatiques de l'activité de la période.
On se retrouvera donc après le mois d'avril pour voir comment a été voté donc ce budget régional et puis d'autres points évidemment. Donc dans un mois au moins.
Dans un mois, absolument. Et puis d'ici là, il y aura probablement aussi des nouveautés à vous donner du côté du plan montagne, notamment de la région, et puis sans doute d'autres inattendus, je l'espère, qui se caleront entre-temps.
À bientôt.
À très bientôt.
Interview. Ok, le bail. L'interview du jour. L'interview du jour.